Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Et Kabadou avec vous, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du 19 septembre 2018. Voici les titres. Au Niger, toujours pas de nouvelles du prêtre italien enlevé depuis lundi soir au sud-ouest du pays. À Salzbourg, en Autriche, les dirigeants européens vont tenter, mercredi et jeudi, d'apaiser leur querelle migratoire. Les dirigeants des deux Corées poursuivent leur rapprochement. Ils ont tenu une conférence de presse commune à Pyongyang. Le président Trump est attendu en Caroline du Nord, région qui panse ses plaies après le passage de l'ouragan Florence. Ne manquez pas la Minute Éco et la page sport avec la suite de la Ligue des Champions. Mais tout d'abord, le journal. Toujours pas de nouvelles du prêtre italien enlevé lundi soir dans le sud-ouest nigérien par des hommes à moto. On ne connaît pas non plus les ravisseurs du prêtre Pierre Luigi Macchiali en l'absence de toute revendication. Selon les autorités nigériennes, des poursuites sont engagées pour les trouver. À la paroisse de Bamewanga, située à 125 km de Niamey, le religieux italien travaillait avec deux autres prêtres qui n'ont pas, eux, été inquiétés. Alors le correspondant de VOA Africa Niamey, Abdul Razak Idrissa a rencontré un d'eux. Il s'agit du père John Arokiya Das qui témoigne en exclusivité sur VOA Afrique sur les circonstances de l'enlèvement de leur collègue.
Et entre 9h30 et 10h, il y avait des bruits chez le père. Donc, je n'ai pas soulevé pour aller voir parce que je pensais que les gens du village sont venus avec un gars qui est possédé parce qu'ils ont crié. C'est ça que j'ai pensé. Et après, le père aussi, il est sorti, il a ouvert la porte pour voir qui sont les gens. Et après, j'ai attendu aussi, le père, il a dit, sors. Donc ça, j'ai confirmé que voilà, le père vraiment, il chasse le démon. Les gens commençaient à tirer le fusil à l'air. Donc il y avait des bruits, doum, doum. Juste 2 minutes, je me suis levé. Et après, notre cuisinière, il m'a appelé pour dire que, ah, mon père, il ne faut pas allumer votre lampe chez vous, il ne faut pas sortir. Ah, pourquoi? J'ai demandé, il m'a dit, ah, il y avait les bandits chez vous. Les bandits sont enlevés le père.
En République démocratique du Congo, selon un responsable local, au moins 27 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'une embarcation de fortune dans la nuit de lundi à mardi sur un affluent du fleuve Congo dans le nord-ouest du pays à 1500 km de Kinshasa. Un accident qui serait dû à la surcharge, à l'état défectueux de l'embarcation et à la navigation nocturne, selon la même source. Par ailleurs, l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba va faire appel de la peine prononcée contre lui pour subordination des témoins en espérant obtenir l'annulation de sa condamnation qui lui a valu d'être exclu de la course à la présidence en République démocratique du Congo. Au Cameroun, 5 candidats de l'opposition ont accusé les médias d'État de privilégier les informations relatives à Paul Biya, chef d'État sortant et candidat à une 6e réélection lors de la présidentielle du 7 octobre prochain. Ces derniers parlent du traitement biaisé et volontairement déséquilibré par les médias d'État. Les propos du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini sur l'importation d'esclaves africains continuent de défrayer la chronique. La Commission de l'Union africaine exige que le politicien d'extrême droite retire ses déclarations désobligeantes. John Linden.
Dans un communiqué rendu public hier soir, la Commission de l'Union africaine s'est dit effarée par les commentaires formulés par Matteo Salvini durant une récente conférence à Vienne. Au cours de celle-ci, le ministre italien de l'Intérieur avait en effet comparé les migrants africains à des esclaves. Dans une vidéo diffusée le 14 septembre par l'entourage de M. Salvini, on voit ce dernier prendre la parole à une réunion des ministres européens de l'Intérieur pour dénoncer l'idée apparemment formulée auparavant par le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, selon laquelle l'Europe vieillissante a besoin d'immigrés. En Italie, nous ressentons l'exigence d'aider nos enfants à faire d'autres enfants et pas avoir de nouveaux esclaves pour remplacer les enfants que nous ne faisons plus, explique l'homme fort du gouvernement italien, après quoi s'en est suivi un vif échange entre les deux ministres. Dans le débat d'un engagement constructif dans le débat sur la migration entre l'Europe et l'Afrique, l'Union africaine exige donc que Matteo Salvini retire ses déclarations désobligeantes. L'intéressé ne s'est pas pour l'heure plier à cette demande.
En Éthiopie, les violences entre communautés ethniques survenues récemment en périphérie de la capitale Addis Abeba ont fait au moins 58 morts. Ce bilan est plus du double de celui annoncé lundi par le gouvernement éthiopien, qui faisait état de 23 morts durant le week-end dans la ville de Bourayou, située en région Oromo, près de la capitale. Le président zambien a renvoyé ce mercredi une de ses ministres après la décision de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et la Suède, de geler leur aide bilatérale à Lusaka en raison de soupçons de corruption. Le Royaume-Uni avait indiqué cette semaine avoir suspendu le versement de son aide bilatérale à la Zambie après la publication d'informations de presse faisant état de détournement dans un programme d'aide du gouvernement, une aide estimée à 47 millions d'euros pendant l'année fiscale 2018-2019. L'ex-Swaziland, pays enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, s'apprête à vivre vendredi des élections parlementaires sans parti en lice. Les partis politiques ne sont pas autorisés à y participer, les meetings sont quasi inexistants et les affiches des candidats sont rares. Pour les partisans de l'opposition, les élections se résument à une parodie de démocratie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les leaders nord-coréens Kim Jong-un a annoncé qu'il compte effectuer une visite historique à Séoul à l'issue d'un sommet à Pyongyang avec le président sud-coréen. Le point avec Yakuba Wedraogo.
Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est rendu dans la capitale nord-coréenne pour tenter de sortir de l'impasse les négociations sur la dénucléarisation du Nord. Il a indiqué que la visite de son homologue Kim Jong-un pourrait intervenir cette année, ajoutant que la Corée du Nord a accepté, je cite, de fermer de façon permanente son site de test de moteurs de missiles. Le président nord-coréen a aussi affirmé que son pays pourrait fermer son complexe nucléaire de Yongbyon si Washington prenait des mesures correspondantes. Monsieur Moon a entamé hier une visite de 3 jours à Pyongyang pour son 3e sommet depuis le début de l'année avec Kim Jong-un. Lors d'une rencontre historique en juin entre le dirigeant nord-coréen et le président Donald Trump à Singapour, Kim Jong-un a réitéré son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Washington exige une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée. De son côté, Pyongyang veut une déclaration officielle des États-Unis pour marquer la fin de la guerre de Corée qui s'est achevée en 1953 sur un simple armistice. Le Nord accuse les Américains de vouloir un désarmement unilatéral sans faire de concessions et sans alléger la pression ou les sanctions.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a salué le travail des secours et promis une aide fédérale aux régions du sud-est ravagées par l'ouragan Florence. Près de 40 personnes ont perdu la vie. Abdourahmane Dia.
Donald Trump a atterri sur la base des Marines de Cherry Point en Caroline du Nord, à une trentaine de kilomètres de la côte où l'ouragan a touché terre vendredi dernier. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie ont été frappées par Florence qui a dévasté de nombreuses zones et provoqué des inondations. L'ouragan a fait plusieurs victimes, dont des enfants, et causé des dommages qui pourraient atteindre des milliards de dollars. Les inondations sont historiques, difficiles à croire, a souligné Donald Trump en rencontrant les responsables des opérations de secours sur la base. Florence est l'un des ouragans les plus puissants et dévastateurs ayant frappé le pays, a-t-il rappelé, saluant le travail de plus de 20 000 personnels fédéraux et militaires, ainsi que les volontaires ayant participé aux opérations de secours. Dans les deux États des Carolines, les rivières ont débordé et pour certaines n'avaient pas encore atteint leur pic de crue.
En Turquie, selon Reporters sans frontières, un tribunal d'Istanbul a condamné à 3 ans et 9 mois de prison les dirigeants d'une chaîne de télévision fermée après le coup d'État manqué de juillet 2016 pour propagande terroriste. La Turquie, qui occupe la 157e place sur 180 pays au classement de la liberté de la presse établi par RSF. En Syrie, selon une ONG, des milliers d'habitants ayant fui les bombardements dans la province d'Idleb et ses environs sont revenus dans leur localité depuis l'annonce lundi d'un accord russo-turc concernant l'ultime grand bastion insurgé de Russie. Des milliers d'employés de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens ont manifesté ce mercredi dans la ville de Gaza contre les licenciements prévus par l'UNRWA pour faire face à l'arrêt des financements américains. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Banque centrale sud-africaine, la SARB, en plein dilemme. Doit-elle remonter ses taux pour contenir l'inflation alors que son économie est tombée en récession? En tout cas, demain, la SARB a rendez-vous avec les investisseurs. Elle doit en effet se prononcer sur une éventuelle hausse des taux alors que sa devise est mise à mal sur les marchés depuis quelques semaines, moins de 9,9% depuis le 1er août. La hausse du dollar a mis la pression sur les devises émergentes et donc sur les banques centrales de divers pays, dont l'Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, le gouvernement propose de supprimer la représentation du secteur privé au sein du conseil d'administration du Conseil Café Cacao à partir de l'année prochaine. Les autorités ivoiriennes trouvent les intérêts privés trop divisés et craignent qu'ils entravent les réformes d'harmonisation du système de mise en vente du cacao avec le Ghana. Et pour terminer, la Tunisie qui s'attend à une hausse du service de sa dette qui devrait atteindre un niveau record de plus de 9 milliards de dinars, soit 3,24 milliards de dollars. L'information a été donnée par le ministre des Finances, Rida Chalgoum. Il faut dire que l'économie tunisienne a traversé une période difficile. Les finances du pays nord-africain peinent à se relever de la crise causée par le renversement de l'ex-président Zine Abidine Ben Ali en 2011, suivi des troubles à l'origine de la montée du chômage et de l'inflation.
C'est à présent le moment de votre page sportive qui vous est présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekea, bonsoir à tous.
Suite de la Ligue des Champions ce soir.
Au programme, le Shakhtar Donetsk contre Hoffenheim, l'Ajax Amsterdam contre l'AEK Athènes, le Benfica qui accueille le Bayern Munich, Lyon en déplacement sur la pelouse de Manchester City, le Victoria de Plzeň contre le CSKA Moscou, les Young Boys de Berne qui accueillent Manchester United. Enfin, les deux chocs de cette soirée, le FC Valence face à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo et le Real Madrid, triple tenant du titre, qui affronte l'AS Rome.
Le FC Barcelone a frappé fort pour son premier match de la Ligue des Champions hier soir.
Victoire convaincante du FC Barcelone 4-0 contre le PSV Eindhoven avec un triplé de Lionel Messi dont un premier coup franc magnifique. Et en deuxième mi-temps, Dembélé qui a marqué pour les Blaugrana. L'Inter Milan a souffert mais s'est imposé 2-1 contre Tottenham. Et puis revenu de 2-0 à 2 partout, le Paris Saint-Germain s'est incliné au bout du temps additionnel à Liverpool. C'est Firmino qui était incertain avant la rencontre qui a crucifié les derniers espoirs parisiens. Galatasaray a profité de la réception du Lokomotiv Moscou pour l'emporter 3-0. Le méconnu capverdien Gary Mendes Rodriguez a ouvert le score. Seul ombre au tableau, l'expulsion du Sénégalais Badou Ndiaye. Iker Casillas, le gardien espagnol du FC Porto et le premier joueur, a joué 20 Ligues des Champions. Ça n'a pas suffi pour que son équipe l'emporte. Match nul, un but partout entre Porto et Schalke 04. Le Borussia Dortmund a fait le travail en s'imposant à Bruges, 1-0. L'AS Monaco s'est incliné à domicile contre l'un des favoris, l'Atlético Madrid, qui l'emporte 2-1. Enfin, Naples a largement dominé l'Étoile Rouge de Belgrade, mais match nul 0-0.
Et la phase de poule de la Ligue Europa démarre demain.
Marseille, finaliste l'an dernier, reçoit l'Eintracht Francfort dans un vélodrome à huis clos. Une décision de l'UEFA liée à divers incidents la saison dernière. Le favori de cette nouvelle édition, Chelsea, sera sur le terrain des Grecs du PAOK. Arsenal, désormais dirigé par Unai Emery, reçoit les Ukrainiens du FC Vorskla. Le Milan AC de Gennaro Gattuso qui va jouer son premier match contre le petit poussé d'Udelange, le premier club luxembourgeois qualifié en Coupe d'Europe. A noter également le Ludogorets face au Bayer Leverkusen ou encore Leipzig contre Salzbourg.
Retour du capitaine dans le groupe de Mazembe.
Mise à l'écart avant le match aller sur le terrain du Primeiro de Agosto en Ligue africaine des champions, Rainford Kabala a réintégré le groupe du tout-puissant Mazembe avant le match retour vendredi à Kamalondo. Les Corbeaux ont besoin d'une victoire pour atteindre les demi-finales.
Tennis, Rafael Nadal blessé.
Le numéro 1 mondial touché au genou droit, une blessure qu'il avait contraint à abandonner en demi-finale de l'US Open, puis à renoncer à la demi-finale de la Coupe Davis face à la France. Eh bien, Rafael Nadal a annoncé son forfait pour les tournois de Pékin et Shanghai en octobre prochain. Ce double forfait menace son rang de numéro 1 mondial. Novak Djokovic pourrait lui ravir sa place de numéro 1 s'il remporte le tournoi de Shanghai.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Malik Yabadou, toujours en votre compagnie, place à présent au dossier du jour. La situation continue de se dégrader dans les zones anglophones du Cameroun. Dans un rapport publié mardi, Amnesty International fait état de quelques 400 civils tués depuis le début de l'année par les forces de sécurité ou les séparatistes et de plus de 160 membres des forces de sécurité exécutés par les séparatistes en 2 ans. Les autorités camerounaises ont soumis tout déplacement dans les zones anglophones à une autorisation préalable. Pour une réaction, Timothée Donangbay a joint à Boya Paul Abiné Aya, président de la fondation Aya, qui s'occupe des réfugiés et des déplacés de la crise anglophone.
Ça laisse un goût très amer à la gauche. Les deux, ça donne un signal très fort à tous ceux qui sont de bonne foi, les modérés, les patriotes, comme on les appelle. Le gouvernement ne veut pas résoudre la crise. Le gouvernement préfère privilégier la force. La force, le visa s'impose lorsqu'il y a deux pays. Lorsque deux pays sont en jeu, le visa s'impose. Si nous sommes en train de critiquer les séparatistes parce qu'ils veulent à tout prix couper le pays en deux, pourquoi imposer le visa dans un pays entre deux peuples alors que le pays, selon vous, est indivisible?
Les autorités disent que c'est pour lutter contre les groupes armés qui sévissent là-bas.
Pas du tout. Je vous parle comme quelqu'un qui fait dans l'humanitaire. Je suis sur le terrain, 24 sur 7. Nous pouvons établir les responsabilités de deux côtés. Là, c'est légitime de dire qu'il y a des responsabilités partagées de deux côtés, les deux, les radicaux et le gouvernement de l'autre côté. Mais qui a la légitimité du peuple? C'est le gouvernement. Si nous sommes dans ce désordre total parce que le gouvernement a échoué, et le gouvernement préfère rester consistant dans l'échec, tel est ce qu'il faut faire. C'est très simple. Le peuple entier, tous les Camerounais dans leur ensemble réclament la libération de tous ceux qui sont en détention et que l'exercice des forces de l'ordre cesse. Comment expliquez-vous qu'un homme en pays tire sur un civil non armé? Il ne tire même pas sur lui avec les balles blanches. Il tire l'intention de le tuer.
Des leaders religieux chrétiens et musulmans ont appelé à l'organisation les 21 et 22 novembre d'une conférence générale anglophone à Boya. Comment cette nouvelle est-elle perçue là-bas?
Bon, ça a été bien reçu par une grande partie de la population anglophone. Comme je vous disais tantôt, les autorités préfèrent rester consistantes dans de mauvaises décisions. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas cette conférence, soi-disant conférence, si je peux emprunter le propos, et que ça ne pourrait pas avoir lieu. Ça a commencé avec le meurtre de Boya. En fait, ils prônent les radicaux indirectement. Après, les ministres ont relayé les informations. Donc, ça pourrait avoir lieu. Ça pourrait, à mon sens, à mon avis, contribuer à l'apaisement des tensions. Parce que, selon moi, nous avons déjà franchi la ligne rouge.
Paul Abiné Aya, président de la fondation Aya, joint à Boya.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Retrouvez-moi à 18h temps universel dans votre émission À votre avis sur VOA Afrique, consacrée aujourd'hui à l'accès à Internet. Après la Zambie et l'Ouganda, le Bénin a introduit une taxe sur les services de communication électronique. Avec cette décision, les internautes vont devoir payer pour accéder à certains réseaux sociaux comme Facebook, Messenger ou WhatsApp. D'autres pays envisagent d'introduire des mesures similaires. Les utilisateurs dénoncent une volonté de censurer l'opinion publique. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Controverse au Nigeria suite au limogeage du chef des services secrets nommé récemment par le vice-président Yemi Osinbajo, alors que le président Muhammadu Buhari était en congé d'une dizaine de jours à Londres. Des leaders du sud du pays ont exprimé leur colère et ont rejeté cette nomination.
Âgé de 45 ans, Aïchatou vit à Kaïda-Sabo, à quelques kilomètres d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Elle dit avoir des problèmes de vision et à chaque fois elle fait plusieurs heures à moto pour se rendre chez son médecin traitant dans une autre communauté à cause du manque de centres de santé dans son village. Cela fait déjà 4 ans que les autorités ont commencé la construction d'un centre de santé, mais les travaux ne sont toujours pas achevés.
C'est triste pour moi de voyager chaque fois jusqu'à un autre village pour recevoir des soins. Je dépense tout le temps de l'argent pour payer mon transport vers les autres villages voisins comme Dobi et Gwagwalada.
Elle n'est pas la seule à vivre ces calvaires à Kaïda Sabo. Les femmes enceintes dans ces districts sont obligées de voyager pendant plus de 3 heures parfois pour atteindre un centre hospitalier. Lors des accouchements, certaines développent de graves complications avant d'arriver au centre de santé. D'autres perdent leurs enfants pendant l'accouchement. Ngassi Obimnebo dirige l'ONG Pitch Aid Medical Initiative qui était venue ce jour et pour la première fois offrir des services de soins de santé primaires aux femmes de Kaïda Sabo.
And I found out that there are two major reasons why the women were dying.
Nous avons constaté qu'il y avait deux causes principales pour les décès des femmes à l'accouchement. La première, les femmes saignent beaucoup durant et après l'accouchement. Et la seconde raison, ce sont les infections. Voilà ce qui nous oblige à changer notre priorité des enfants vers leur maman.
Le manque de soins de santé primaire n'est pas le seul problème de cette communauté. Il n'y a pas de route pour accéder à Kaïda Sabo et pas d'école secondaire. La communauté est pourtant entièrement sous l'autorité du ministère en charge du développement du territoire d'Abuja. Halilou Ayali est le leader de la jeunesse de la communauté. Il se dit satisfait de la visite de l'ONG.
Nous disons merci à Dieu pour ces missionnaires qui sont venus nous assister avec des médicaments qui nous soulagent un peu. Mais tous ces autres politiciens qui viennent ne font rien pour nous.
Comme à Kaïda Sabo, il existe d'autres communautés dans les mêmes conditions aux alentours d'Abuja. Les femmes, principales victimes des difficultés auxquelles le village est confronté, menacent de ne pas participer aux élections de février prochain à cause des promesses non tenues des politiciens qui viennent seulement dans leur communauté en période de campagne électorale. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Vous venez d'écouter donc ce reportage d'une communauté située non loin d'Abuja qui fait état de son ras-le-bol. Elle est peuplée de 200 000 habitants. C'est la communauté de Kaïda Sabo qui est privé d'eau potable et de route.
Nos infos sur voaafrique.com.
Au Tchad, la grève persiste dans le secteur public. Les syndicats des fonctionnaires poursuivent leur lutte pour faire fléchir le gouvernement. Alors que la rentrée scolaire est fixée au 1er octobre prochain, les élèves des établissements publics seront encore les plus pénalisés pour l'année 2018-2019. André Komadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
La dernière rencontre entre les responsables des organisations syndicales et les membres du gouvernement a accouché encore d'une souris. À entendre les syndicalistes, des concessions ont été faites du côté des travailleurs pour permettre de démarrer la rentrée scolaire 2018-2019, mais le gouvernement reste toujours indifférent à leurs propositions. Pour Barka Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, les autres points peuvent attendre, mais au moins que le gouvernement rembourse aux travailleurs les augmentations générales spécifiques coupées depuis janvier 2018.
Si le gouvernement passe au rétablissement de ces AGS, les travailleurs pourront reprendre le travail et continuer les négociations sur les autres points qui sont restés en suspens. Par exemple, le gel des effets financiers, des augmentations et des reclassements, le frais de transport, la loi 32, etc. Malheureusement, nous n'avons obtenu rien de concret. Les travailleurs ont décidé de poursuivre la grève.
Déjà, le gouvernement s'apprête à lancer la rentrée scolaire 2018-2019 le 1er octobre prochain. La validation de l'année ne se résume pas seulement sur l'organisation du baccalauréat et du brevet d'études fondamentales, mais il faut organiser des scénarios pour permettre aux élèves de classe intermédiaire de passer en classe supérieure avant de parler de la rentrée nouvelle, estime Gartoïde Blaise, secrétaire général du CET pour la commune de N'Djamena.
Pour ce passage-là, on a besoin d'avoir au moins 90 jours encore de cours pour compléter les 90 jours d'avant. En ce moment, nous pouvons donc parler d'une autre année scolaire qu'on s'entende là-dessus. Nous sommes méprisés. Et c'est en ce moment qu'on parle de l'école, de quelle école on veut parler.
Pour le délégué de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena, Dungus Abraï, cette question n'est plus d'actualité.
Et les classes intermédiaires, on a essayé de voir par-ci, par-là, et tous les établissements ont déjà partagé les carnets à leurs élèves. Donc je me demande de quel bulletin dont il est question.
Les élèves, premières victimes de ce bras de fer autres gouvernements syndicats se tournent vers le Dieu créateur d'où leur viendra le secours.
L'année passée, on a fini avec seulement 2 bulletins et franchement, ça ne nous arrange pas. Je prie tous les jours pour que Dieu aide le président à résoudre le problème qu'il y a.
Je vois ce que le président prie les enseignants pour qu'on reprenne les cours dans les bonnes conditions.
Les autorités, s'il peut faire quelque chose pour les jeunes parce que nous les jeunes, maintenant, on est énervés.
C'est le cri d'une jeunesse tchadienne désemparée et qui voit son avenir hypothéqué. Même les réseaux sociaux qui permettent à cette jeunesse de se cultiver et d'être en contact avec le monde extérieur sont censurés depuis 6 mois sans aucune explication. André Kodmadingar Ndiamena, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, on fait le point sur le braconnage en Afrique. Le monde connaît une recrudescence du commerce illégal des espèces sauvages et l'Afrique est directement concernée. Alors que le continent concentre ses efforts sur la croissance économique et la stabilisation politique, la disparition des lions, des rhinocéros ou des éléphants passe inaperçue. Le phénomène est d'autant plus difficile à endiguer qu'il rapporte gros sur la liste des activités criminelles transnationales les plus lucratives. Le trafic des espèces sauvages occupe la 4e place. À qui profite le crime? Quelles sont les difficultés rencontrées par les autorités qui traquent les braconniers? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Au Kenya, une nouvelle application est à son 4e mois d'exploitation à Nairobi. Elle se nomme Beda Beda et elle est censée concurrencer Uber et d'autres applications populaires. Le reportage que nous présente Irénée Hermanungbo est de Raël Ombouor sur place à Nairobi.
Difficile de conduire un taxi à Nairobi, la capitale kenyane, ces jours-ci. Les chauffeurs se plaignent de nouvelles entreprises de transport qui utilisent des applications numériques pour communiquer avec leurs clients. C'est donc pour répondre à cette concurrence que les conducteurs de taxis traditionnels se sont mobilisés pour mettre en œuvre leur propre application Beba Beba. Simon Djougounan dirige un groupe de représentants des conducteurs de taxis.
Nous nous sommes rendus compte en décembre dernier que nous étions plus en train de nous plaindre que de chercher des solutions. On s'est donc réunis. Certains parmi nous étaient très actifs en ligne pour sensibiliser les autres. Et c'est ainsi que nous avions réalisé qu'on ne pouvait plus continuer à se plaindre et qu'il fallait agir.
On reproche aux services de transport étrangers de fixer des tarifs peu élevés à leurs clients tout en imposant des commissions élevées aux conducteurs. Uber facture une commission de 25% aux conducteurs et les applications comme Taxify et autres entre 15 et 20%. Beba Beba fixe sa commission à 15%, mais le chauffeur et le propriétaire du véhicule peuvent conserver une partie de ses frais. De plus, les tarifs sur Beba Beba sont légèrement plus élevés, ce qui permet aux conducteurs d'avoir plus d'argent. Olé Lélei est chauffeur, utilisateur de l'application Beba Beba.
Beba Beba favorable rate for drivers.
Beba Beba a des taux avantageux pour les conducteurs et elle tient également compte des clients. Pendant qu'elle s'assure du bien-être des conducteurs que nous sommes, nos intérêts sont aussi protégés par cette association appelée DIPAC qui est sous Beba Beba.
Pour Simon Djougounan, l'autonomisation économique est évidemment une priorité pour les membres de son groupe.
Beba Beba ne fait pas de la bureaucratie en cas de problème. Il suffit d'appeler les parties prenantes, nos chauffeurs et partenaires, pour qu'ils puissent prendre une décision immédiatement mise en œuvre. Dans d'autres sociétés, vous entendez parfois dire qu'ils veulent appeler quelque part en dehors du pays avant de prendre une décision. Donc nous n'avons pas besoin de ces bureaucraties.
Shivashi Muleji, directeur régional de Taxify, défend la tarification de son entreprise.
Le simple fait que nous prenions une commission inférieure montre déjà que les revenus des conducteurs constituent un principe très fort dans notre mode de fonctionnement. Maintenant, il faut sécuriser l'emploi et nous avons une équipe qui prend en charge les chauffeurs, les former et les aider lorsqu'il y a des problèmes à résoudre.
Au total, 3000 taxis sont actuellement inscrits sur la plateforme Beba Beba, soit environ la moitié des membres de l'Association des conducteurs de taxis du Kenya.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Joe Gill. Présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme en notre compagnie.